invita ses disciples à aller prêcher l'évangile dans le monde entier. Mais nous voici 19 siècles plus tard, et le monde n'est pas encore converti. La paix sur la terre et la bonne volonté parmi les hommes paraissent être des conditions irréalisables de nos jours. L'Église a-t-elle échoué dans ses efforts? Qu'est-ce exactement que l'Église? Voici quelques-unes des questions dont Pierre et Thomas s'entretiendront aujourd'hui en continuant leur série d'études bibliques. Nous examinerons le cinquième livre du Nouveau Testament, le livre des Actes. Ces programmes sont offerts dans le but de favoriser l'étude biblique dans un esprit de tolérance et de bonne volonté envers tous, et vous sont présentés par l'Association des étudiants de la Bible, éditeur de la publication mensuelle Aurore, en coopération avec les groupes locaux d'études bibliques et nos amis de partout. Pierre, qu'est-ce que l'Église ? Il me semble qu'une réponse correcte à cette question montrerait pourquoi le monde n'a pas été converti par l'Église jusqu'à maintenant. Ne crois-tu pas, Pierre ?
Sans aucun doute, Thomas. Nous trouvons la réponse dans le livre des Actes. Rien n'est dit jusque-là dans le Nouveau Testament concernant l'Église. Au 16e chapitre de Matthieu, verset 18, Jésus dit à Pierre que lui-même bâtira son Église, mais il ne donna pas d'autres explications sur ce qu'il entendait par Église.
Est-ce dans ce texte que Jésus dit à Pierre que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles?
Oui, mais avant de chercher à savoir ce que Jésus voulait dire, je pense qu'il vaut mieux considérer la question de ce qu'est réellement l'Église. Le livre des Actes est en principe un rapport consacré aux expériences des premiers disciples de Christ et de la formation de la première Église. Le livre entier sera beaucoup plus significatif si nous comprenons ce qu'ils essaient d'accomplir.
Je suis d'accord avec toi, Pierre. Je répète donc ma question. Qu'est-ce que l'Église exactement? C'est autre chose qu'un bâtiment, si je puis me permettre une comparaison aussi simpliste.
L'Église de Christ n'est certes pas un bâtiment. Dans le Nouveau Testament, le terme « Église » est une traduction du mot grec « ecclésia », qui signifie simplement « un appel », ou plus littéralement « un peuple choisi ».
Est-ce en rapport avec cela que Jésus dit à ses disciples « Je vous ai choisi du milieu du monde » ?
Oui, exactement. Ainsi, tu vois, le sens du mot fait comprendre que ce n'était pas le dessein divin d'appeler le monde entier à devenir membre de l'Église. Car dans ce cas, elle ne serait pas une Église, un peuple choisi.
Pierre, cela veut-il dire que Dieu ne s'est pas intéressé au monde, qu'aucune disposition n'a été prise en vue de son salut?
Non, Thomas, cela ne veut pas dire que Dieu ne s'est pas intéressé au monde, bien au contraire. Toute la Bible le prouve. Dans Jean, chapitre 3, verset 16, il nous est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Mais Pierre, n'est-ce pas le plan de Dieu qui veuille que tous ceux qui croient en Christ deviennent membres de l'Église de Christ?
Pas du tout, Thomas. Jésus dit aux premiers disciples qui devinrent membres de l'Église, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. »
Ceci indiquerait, il me semble, que contrairement à ce que le monde pense, l'Église se composera d'un petit nombre.
C'est exact, Thomas. Mais remarque comment Jésus associa l'idée de l'Église, le petit troupeau, les appelés, à l'idée du royaume. Au cours de l'étude de l'Ancien Testament et des enseignements de Jésus, nous avons appris que le royaume de Christ sera un royaume universel et que par ses représentants, toutes les familles de la terre seront bénies.
Quelle différence y a-t-il alors entre l'Église et le royaume?
Le royaume messianique, prédit dans la Bible, est un gouvernement universel et lorsqu'il sera complètement établi, il exercera son autorité sur toutes les nations. Par ses représentants, l'humanité entière aura l'occasion d'obtenir la vie éternelle sur cette terre. La Bible enseigne clairement que Jésus sera le gouverneur suprême de ce royaume. Et tous ceux qui, durant le présent âge, sont appelés hors du monde, deviennent ses vrais disciples par la foi et la loyauté envers lui, et deviendront ses associés.
C'est donc ce petit troupeau qui recevra le royaume et sera associé à Jésus dans son gouvernement. Est-ce bien là ta pensée?
Oui, Thomas. Jésus donna cette espérance à ses disciples, leur faisant comprendre néanmoins que les conditions en vertu desquelles ils pourraient vivre et régner avec lui dans son royaume étaient très rigides et sévères. Il parla du chemin sur lequel tous ses disciples, les élus, devront marcher, comme étant un chemin étroit et difficile.
Et je me souviens qu'à une autre occasion, Jésus dit, Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se charger de sa croix et suivre Christ signifie combattre et mourir avec lui. Je comprends et j'ai souvent pensé que des conditions aussi rigoureuses devaient nécessairement restreindre le nombre des membres de l'Église au point de n'être, comme dit Jésus, qu'un petit troupeau.
Et s'il n'y avait que ce petit troupeau de sauveurs, rien n'était plus naturel à l'homme de chercher un moyen pour augmenter le nombre, et, s'il était possible, admettre tout le monde dans l'Église. Mais cela n'est pas nécessaire. Si nous comprenons que l'Église appelée hors du monde sera plus tard associée à Jésus dans l'œuvre de son royaume pour déployer les bienfaits du salut à toute l'humanité, dans des circonstances bien plus favorables que celles qui existent pendant l'âge actuel.
Pierre, les voies de Dieu sont toujours les meilleures. Mais il est important pour nous de les comprendre. Je remarque qu'au premier chapitre des Actes, il est dit que Jésus chargea ses disciples d'être ses témoins sur toute la terre, en commençant par Jérusalem. Il leur avait dit, je crois, d'aller de par le monde et de prêcher la bonne nouvelle et de faire les disciples parmi les nations. Cela ne prouve-t-il pas que le dessein divin était de convertir le monde par l'Église durant l'âge présent?
Non, Thomas. L'œuvre de l'Église est de porter le témoignage de la vérité aussi loin que possible. Dans son sermon sur la montagne, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Mais il compare cette lumière à celle d'une bougie, voulant dire que la lumière de l'Évangile propagée par l'Église n'éclairera pas véritablement le monde entier, mais attirera et guidera ceux qu'il plaira à Dieu d'appeler hors du monde pour suivre Jésus dans le sacrifice.
Autrement dit, l'idée de faire des disciples parmi les nations est bien différente de celle de faire des disciples de toutes les nations.
Si Dieu avait eu l'intention de convertir le monde entier et d'établir la paix et la bonne volonté parmi les hommes uniquement par la prédication de l'Évangile, ce serait fait, car les plans de Dieu n'échouent jamais. Au lieu de cela, nous voyons aujourd'hui le monde non converti après avoir eu l'Évangile prêché depuis près de 2000 ans. Mais les forces irreligieuses sont si dominantes que le monde est menacé de destruction par les bombes atomiques et à l'hydrogène, ce qui remplit de frayeur le cœur des hommes.
Il est merveilleux de reconnaître que cette situation n'est pas due à un échec du plan de Dieu, mais que le temps prévu doit venir où les promesses d'éclairer et de bénir l'humanité par le royaume du Messie devront s'accomplir et s'accompliront glorieusement.
C'est en effet très rassurant, Thomas, de savoir que les desseins de Dieu n'échouent jamais. Le deuxième chapitre des Actes dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, ce qui prouve que le succès de cette œuvre, aussi bien que le succès de tous les autres plans, sont entièrement entre ses mains.
Cela ne prouve-t-il pas que l'homme ne peut ni ajouter un membre à l'Église ni le retrancher?
Oui, Thomas. Les disciples n'ont pas été chargés de cette responsabilité.
Ta réponse, Pierre, engendre une autre question. Il existe beaucoup d'Églises aujourd'hui. Pouvons-nous dire laquelle est la vraie?
Ceci n'est pas non plus notre responsabilité. Tout ce dont nous avons à nous soucier est si, oui ou non, nous remplissons les conditions imposées à un disciple. Suivons-nous l'exemple que Jésus a donné? Dépensons-nous notre vie au service du Seigneur? Prenons-nous notre part dans la proclamation du royaume comme Jésus chargea ses disciples de le faire?
Ceci est en effet un bon point de vue. Dieu est capable de lire dans le cœur de son peuple et de savoir s'ils sont loyaux envers lui. Mais Pierre, j'en reviens à l'expression de Jésus que j'ai citée au début, et où il dit que les portes du séjour des morts, l'enfer, ne prévaudront point contre son Église. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Est-ce une promesse de Jésus que son Église ne sera jamais détruite?
Assurément, l'Église de Christ durera toujours. Mais je pense que cette expression de Jésus a une signification plus profonde.
Pierre, qu'est-ce que les portes de l'enfer?
Le mot « enfer » dans ce verset est une traduction du mot grec « hadès ». Sa signification est la même que celle du « shéol » de l'Ancien Testament, qui est la condition de mort. La Bible dit que les morts sont des prisonniers du séjour des morts. Les portes de l'enfer sont donc les portes de la prison de la mort. Lorsque l'Église sera complète, que les appelés auront été réunis avec le Christ, ils régneront dans le royaume messianique. Les portes de l'enfer seront ouvertes et les prisonniers seront libérés.
Autrement dit, l'œuvre de la conversion du monde par Christ et son Église commencera et ne sera pas limitée aux vivants, mais comprendra aussi ceux qui sont morts, puisqu'ils ressusciteront.
C'est juste. Toutes les familles de la terre seront bénies par le Christ et son Église. et les portes de l'enfer n'empêcheront pas d'atteindre les morts, puisque l'enfer les rendra tous. Tous ces faits sont traités dans l'article « L'Église et sa mission ». Thomas, voudrais-tu parler à nos amis de cet article ?
Oui, Pierre. Ce sera avec plaisir. Chers amis, l'article « L'Église et sa mission » est le sixième d'une série d'articles publiés sous le titre « Le livre des livres ». Cette série étudie tous les livres de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Celui-ci examine le livre des Actes, un rapport très intéressant, les expériences des premiers disciples de Christ et l'établissement de la première Église. Demandez un exemplaire gratuit. L'apôtre Pierre dit que l'âme de Jésus ne resta pas dans l'enfer. Que voulait-il dire ? Qu'est-ce que le Saint-Esprit ? Qui vint sur les disciples à Pentecôte, les rendant capables de parler en langue étrangère. Pierre tint un discours sur leur rétablissement, en disant qu'il viendra des temps de rafraîchissement annoncés par la bouche de tous les saints prophètes de Dieu. Que voulait-il dire ? Que dirent les prophètes de l'Ancien Testament concernant leur rétablissement ? Paul dit qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Qu'arrivera-t-il aux injustes après qu'ils auront ressuscité ? Voici quelques-unes des questions dont vous trouverez la réponse dans l'article « L'Église et sa mission ». Demandez un exemplaire gratuit. Demandez « L'Église et sa mission » qui vous sera envoyé gratuitement et franco. Ce programme d'études bibliques vous est offert par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, éditeur de la revue mensuelle Aurore, et par les amis de Pierre et Thomas de partout. Nous serons à nouveau avec vous la semaine prochaine.